Chapitre 10. Il resta dîner ce soir-là, et, à la grande satisfaction de Ruth, fit bonne impression à son père. Ils parlèrent du métier de marin, un sujet que Martin possédait sur le bout des doigts, et M. Morse confia plus tard qu'il l'avait trouvé très intelligent. Pour éviter l'argot et employer le mot juste, Martin s'obligea à parler lentement, ce qui lui permit de mieux exprimer ses pensées. Il fut beaucoup plus à son aise que lors du premier dîner, près d'un an auparavant. Sa réserve et sa modestie plurent énormément à Mme Morse, qui fut très sensible à ses progrès. « C'est le premier garçon qui ait jamais attiré l'attention de Ruth, » dit-elle à son mari. « La singulière indifférence de notre fille envers les hommes commençait à me causer du souci. » Morse regarda sa femme avec étonnement. « Vous comptez vous servir de ce jeune marin pour la réveiller ? » demanda-t-il. « Je ne voudrais pas qu'elle meure vieille fille si je peux l'en empêcher, » répondit-elle. « Si ce jeune Eden peut éveiller en elle un intérêt pour la gente masculine en général, ce sera une bonne chose. » « Une excellente chose, mais supposez... »« Il faut faire des suppositions de temps en temps, ma chère. Supposez qu'il éveille en elle un intérêt pour lui en particulier. »« Impossible !» s'esclaffa Mme Morse. « Elle a 3 ans de plus que lui, et puis... »« Et puis c'est impossible. Il n'y a rien à craindre de ce côté, faites-moi confiance. » Et tandis qu'on écrivait son rôle en coulisses, Martin méditait une extravagance à l'instigation d'Arthur et de Norman. Il projetait une randonnée à bicyclette dans les collines le dimanche matin. La chose n'eût pas intéressé Martin s'il n'eût appris que Ruth serait de la partie. Il n'avait jamais roulé à bicyclette, mais, puisque Ruth le faisait, il était temps pour lui de s'y mettre. Après avoir pris congé, il s'arrêta donc en chemin chez un marchand de cycles et fit l'acquisition d'un vélocipède pour $40. Plus d'un mois de salaire durement gagné. Cela entamait sérieusement son pactole, mais en ajoutant à celui-ci les $100 qu'il allait recevoir de l'examineur et les 420 que ne manquerait pas de lui payer le Youth's Companion, la dépense prenait des proportions beaucoup plus raisonnables. Les dégâts qu'il infligea à son costume en apprenant à pédaler en équilibre sur le chemin du retour ne l'inquiétèrent pas davantage. Il téléphona au tailleur de la boutique de M. Higginbotham et commanda un nouveau complet. Puis il transporta son engin dans l'étroit escalier à grand bruit de ferraille et trouva le moyen de le caser dans sa chambrette entre le lit et le mur. Il avait prévu de consacrer son dimanche à la préparation de son examen d'entrée au collège, mais l'article sur les pêcheurs de perles le détourna de sa résolution et il passa la journée à coucher sur le papier dans une fièvre créatrice les visions romantiques qui flamboyaient en lui. Le fait que l'examineur du jour eût encore négligé de publier son récit sur la chasse au trésor n'affecta pas son moral. Il était sur un nuage et, sourd aux appels répétés de sa sœur, se passa du rituel dîner dominical dont M. Higginbotham régalait invariablement sa tablée. Ce fastueux repas était pour M. Higginbotham l'extériorisation de sa réussite sociale et de sa prospérité. Il ne manquait jamais, d'ailleurs, de l'agrémenter de sermons et de platitudes sur les institutions américaines qui offraient à tout homme travailleur la possibilité de s'élever et, dans son cas, comme il le rappelait infailliblement, s'élever signifiait passer de la condition de commis d'épicerie à celle de propriétaire du magasin Higginbotham. Le lundi matin, Martin Eden regarda en soupirant son pêcheur de perles inachevé et prit le tram pour le collège d'Oakland. Lorsque, plusieurs jours plus tard, il alla consulter les résultats des examens, il apprit qu'il avait échoué à toutes les épreuves, à l'exception de la grammaire. « Votre grammaire est excellente, » lui expliqua le professeur Hilton en le toisant à travers d'épaisses lunettes. « Mais vous ne connaissez rien, positivement rien aux autres matières. En histoire des États-Unis, vous êtes nul. Il n'y a pas d'autre mot, nul. Je ne saurais trop vous conseiller... » Le professeur Hilton s'interrompit pour lui lancer un regard froid, aussi froid et impassible que le verre de ses éprouvettes. Il était professeur de physique, doté d'une nombreuse famille, d'un maigre salaire et d'un bagage prédigéré de connaissances apprises comme un perroquet. « Oui, monsieur, » répondit Martin avec humilité, en regrettant que le bibliothécaire ne fût pas en ce moment à la place du professeur Hilton. « Je ne saurais trop vous conseiller... » « Dis-je de retourner à l'école primaire pour 2 ans au moins. Bon vent. » Martin ne fut pas trop affecté par son échec, mais la réaction choquée de Ruth lorsqu'il lui rapporta les conseils du professeur Hilton, l'émut beaucoup. Il en fut tout mari. « Vous voyez que j'avais raison, dit-elle. Vous en savez plus que tous les autres candidats et vous avez pourtant été recalé. C'est parce que votre éducation est fragmentaire et superficielle. Il vous faut plus de discipline dans l'étude, c'est-à-dire de bons maîtres. Vous manquez de bases solides. Le professeur Hilton n'a pas tort et si j'étais vous, je suivrais des cours du soir. En un an et demi, vous auriez comblé votre retard. Et puis cela vous laisserait la possibilité d'écrire dans la journée, ou du moins d'exercer un emploi quelconque si vous ne parvenez pas à vivre de votre plume. Mais si mes jours sont occupés par le travail et mes nuits par l'étude, quand aurai-je le temps de vous voir ? » fut la première pensée qui lui vint. Il se garda de la formuler et dit simplement « En allant à l'école du soir, j'aurais l'impression d'être un gamin. Ça me serait égal si je pensais que ça en vaut la peine, mais voilà, je ne le pense pas. Je peux apprendre plus vite par moi-même. Ce serait une perte de temps. » Il pensait à elle et à son désir de la conquérir en disant cela. « Et je n'ai pas de temps à perdre. Je dois mettre à profit tous mes instants. Cela nécessite tellement de choses. » Elle le regarda avec tendresse et il se sentit mufle de la contredire. « Pour la physique et la chimie, vous avez absolument besoin de travaux pratiques en laboratoire. Et vous ne pourrez jamais apprendre l'algèbre et la géométrie tout seul. Il vous faut des maîtres, des gens spécialisés dans l'art de transmettre le savoir. » Il hésita une minute, en pesant bien ses mots, de crainte que ce qu'il avait à dire ne parût prétentieux. « Surtout, n'allez pas croire que je me vante, » commença-t-il. « Mais j'ai l'impression d'avoir un don naturel pour l'étude. Je peux étudier tout seul, d'instinct, comme un canard apprend à nager. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait avec la grammaire, et j'ai appris des tas d'autres choses, vous n'imaginez pas. Et ce n'est qu'un début. Attendez que je sois dans le bain. Maintenant que je suis lancé, je commence à piger le truc. S'il vous plaît, évitez cette expression. À voir comment ça marche, rectifia-t-il. Cela n'a aucun sens en langage correct, objecta-t-elle. Il chercha ses mots et récapitula. Ce que je veux dire, c'est que je commence à assurer mes arrières. » Découragée, elle abandonna. Il continua. « Le savoir, c'est comme une carte de navigation. C'est l'impression que ça me fait chaque fois que j'entre à la bibliothèque. Le rôle des professeurs, c'est de faire visiter la salle des cartes aux étudiants. Ce sont des guides, sans plus, et ils ne connaissent que cette salle. Ce ne sont pas eux qui tracent les cartes. Ils savent seulement où elles se trouvent, dans quel tiroir, et ils le montrent aux visiteurs qui, sans eux, risqueraient de se perdre. » « Seulement, moi, je ne me perds pas aussi facilement, j'ai le sens de l'orientation, je sais toujours où que je suis. Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Ne dites pas « où que je suis ». Vous avez raison, où je suis. Mais où que j'en étais ? Je veux dire, où en étais-je ? Ah oui, dans la salle des cartes. Eh bien, certaines gens, corrigea-t-elle, certaines gens ont besoin de guides, la plupart des gens même. Mais moi, je crois que je peux m'en dispenser. » J'ai passé pas mal de temps dans la salle des cartes maintenant, et je sais faire le point, je sais de quelles cartes j'ai besoin, et quelles côtes je veux explorer. Et à la façon dont je sens le vent, je naviguerai bien plus vite tout seul. Une flottille avance toujours à l'allure du bateau le plus lent, vous comprenez ? Pour les professeurs, c'est pareil. Ils ne peuvent pas laisser leurs élèves à la traîne, et si je dois me régler sur l'allure de la classe, ça me ralentira. « Qui voyage seul voyage plus vite », dit-elle en citant le proverbe. « Mais je voyagerai encore plus vite avec vous. » faillit-il lui répondre en imaginant tout à coup un monde sans fin, où il se voyait dérivant avec elle sous d'éblouissants soleils et des nuits étoilées, tous deux enlacés, les cheveux au vent. Que n'était-il capable de trouver les mots ? Dieu, s'il avait pu en cet instant lui faire voir ce qu'il voyait, quelle douleur que de ne pouvoir lui dépeindre toutes ces images qui foisonnaient dans les miroirs de son esprit. Ah bon sang ! Tout s'expliquait, voilà le truc, voilà le secret de la grandeur des écrivains et des poètes. Voilà pourquoi c'étaient des géants. Eux, ils savaient exprimer ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils voyaient. Souvent, les chiens assoupis au soleil jappent et gémissent, mais sans pouvoir dire quels rêves les font ainsi japper et gémir. Ils s'étaient plus d'une fois demandé ce qu'ils voyaient dans leur sommeil. Il était comme eux, un chien endormi. Il avait de nobles et merveilleuses visions, mais ne savait que gémir et japper devant route. Il était temps de se réveiller. Il se lèverait bientôt, ouvrirait les paupières et travaillerait d'arrache-pied jusqu'au jour où, les yeux dessillés et la langue déliée, il saurait lui faire partager la richesse de son monde intérieur. D'autres hommes avaient percé le secret du langage, avaient su dompter les mots et les assembler pour inventer des images nouvelles. Il crut soudain entrevoir un coin du mystère et se laissa de nouveau emporter par une vision de soleil et d'étoiles, jusqu'à ce que, prenant brusquement conscience du silence qui l'entourait, il vit que Ruth le regardait avec amusement, un sourire dans les yeux. « Je viens d'avoir une grande vision, » dit-il. Et l'écho de ses propres mots fit bondir son cœur. D'où venait-il ? Il traduisait exactement ce qui venait de se passer. C'était un miracle. Jamais il ne s'était senti aussi inspiré. Mais c'était aussi la première fois qu'il essayait de fixer son inspiration dans une formule. Voilà l'explication. Le tout était d'essayer. Swinburne l'avait fait, et Tennyson, et Kipling, et tous les autres poètes. Il pensa subitement à ces pêcheurs de perles. Il n'avait jamais osé s'attaquer aux grandes choses, à la beauté qui brûlait en lui. Cet article serait différent des autres quand il l'aurait achevé. Quel merveilleux sujet! Que de splendeur il recelait. Son inspiration bouillonnait. Pourquoi ne pas tenter de chanter ses splendeurs en vers classiques, comme les grands poètes? Et son amour pour Ruth, ces mystérieux délices qui ébranlaient son âme, pourquoi n'en ferait-il pas un poème? Ils avaient chanté l'amour, ils le chanteraient aussi, nom de Dieu! Il s'aperçut avec effroi que, distrait par sa fantasmagorie, il avait juré à voix haute. Le sang lui monta au visage et le rouge de la honte transparut sous son hâle, de son col de chemise à la racine de ses cheveux.
« Je vous demande pardon, » bégaya-t-il, « je pensais tout haut. »
« Cela sonnait comme une prière, » dit-elle avec indulgence, mais en prenant sur elle, car c'était la première fois qu'elle entendait un juron sortir de la bouche d'un homme de sa connaissance, et cela choquait ses principes, comme une bourrasque de vraie vie soufflant sur le jardin de son adolescence protégée. Mais elle pardonna, avec une facilité qui la surprit elle-même. Comment eût-elle pu lui en vouloir? Il n'avait pas eu la même chance que d'autres, mais il mettait tant de cœur à s'amender, et il y parvenait. Elle n'envisageait pas un seul instant que son indulgence à son égard pût avoir d'autres motifs. Elle ne comprenait pas que c'était de la tendresse. Elle n'avait aucun moyen de le savoir. Le cours paisible de ses 24 années, sans la moindre liaison amoureuse, ne la disposait guère à la juste interprétation de ses propres sentiments. Et, n'ayant jamais aimé, elle ne savait pas qu'elle aimait.